Bienvenue dans Followers. Ils sont youtubeurs, instagrammeurs ou même tiktokers. Nous les connaissons à travers nos écrans, mais à quoi ressemble leur vraie vie? Je suis Pauline Borgia et dans ce podcast, je rencontre les créateurs de contenu les plus influents. Chaque jour, des millions de personnes, de followers, suivent les joies, les drames et le quotidien de leurs créateurs de contenu préférés. Ils sont parfois devenus nos amis ou même nos confidents. Mais qu'est-ce qui les motive et surtout qu'est-ce qu'ils défendent? Comment gagnent-ils leur vie? Comment ont-ils monté un empire avec un simple téléphone? Vous allez enfin passer de l'autre côté de l'écran. Cette semaine, je rencontre une influenceuse décomplexée. Si je devais résumer ses réseaux en un mot, ce serait accessible, si vous voyez ce que je veux dire. Sur Instagram, sur TikTok, ses réels respirent la joie de vivre, mais pas que. On a surtout envie de la follow parce qu'elle est engagée. Féminisme, body positive et lutte contre le harcèlement, elle n'a pas peur de donner les termes. Et ça, ça plaît déjà à 700 000 followers. Dans cet épisode, vous verrez que son sens de l'autodérision est sa meilleure arme. Et elle nous le dira, si aujourd'hui elle a acquis une grande confiance en elle, il a fallu du temps pour en arriver là. Je la laisse vous raconter tout ça ? Allez, bienvenue à Juste Inaccessible. Salut Justine.
Salut.
Et bienvenue dans Followers.
Merci.
Je suis tellement contente de t'accueillir.
Ça fait plaisir.
Bon, déjà parce que t'es un soleil, mais ça tout le monde te le dit, donc j'ai l'impression d'être un peu genre... tu vois, vraiment d'arriver, de mettre les pieds comme ça dans le plat. Mais c'est vrai. Tu crées donc du contenu sur YouTube, TikTok et Instagram et tu es suivie par 700 000 personnes sur tes réseaux cumulés. Ça fait beaucoup de gens.
Ça fait beaucoup de monde, oui.
Ça fait plus qu'un stade? Non. C'est à peu près un stade.
Okay.
T'imagines, t'es au milieu toute seule et il y a tous ces gens comme ça qui sont là « Oh, je t'adore
!» Après, j'espère qu'il y a des doublons quand même entre TikTok, Insta, il y a des gens qui me suivent sur les deux plateformes, voire les trois plateformes.
Mais j'ai grossi tes chiffres, chut.
Oui, ouais, mais bon, je suis modeste, donc...
Alors, ton but, je dirais, principal, et ce pourquoi on se dit « Ah tiens, cette fille, j'ai envie de la suivre au départ » et après on te découvre vraiment en profondeur, c'est décomplexer les personnes
voilà.
qui te suivent
ouais.
sur tous les sujets et beaucoup le physique. Parce que ça a été un sujet pour toi, on va en parler après. Comme je disais, t'es un soleil, t'es jovial, t'es fun, t'es drôle, mais t'as ce petit truc en plus qui, moi, me fait du bien et qui m'a fait me dire « Tiens, je m'engage à m'abonner », c'est que tu es engagé, justement. Tu fais pas juste des blagues. Est-ce que t'es vraiment comme ça dans la vie ?
Engagé ?
Ouais, engagé et en même temps de bonne humeur.
Oui, ouais.
Tout le temps ?
Pas de bonne humeur tout le temps, non, ça c'est impossible, personne n'est de bonne humeur tout le temps. Non, je dirais que je suis de bonne humeur un jour sur quatre, à peu près comme tout le monde, et après, le reste du temps, je suis concentrée, je suis focus, je suis quelqu'un de très organisé et très engagé. Et en fait, l'idée, c'est plus que d'être engagé, c'est d'être vraiment accessible à tout le monde, à tous, et que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi, d'une manière ou d'une autre.
Mais d'où tu viens, toi ?
Je suis née, j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité à Montpellier, dans le sud.
Mm-hmm.
Et après, en fait, pendant mes années collège et lycée, en gros, ma mère, elle m'a envoyée à 11 ans dans une colonie de vacances en Allemagne pour apprendre l'anglais. C'était une colonie de vacances linguistique.
D'accord.
Et donc, il s'avère que dans cette colonie, il y avait des Allemands qui apprenaient l'anglais et des internationaux qui apprenaient l'allemand.
Okay.
Et moi, du coup, j'étais française qui apprenait l'anglais avec des Allemands en Allemagne. On est sur un délire. Et du coup, c'était une colo où il y avait des gens qui venaient de partout. Et j'ai rencontré une nana, une américaine avec qui j'ai partagé une chambre pendant un mois, qui est devenue une de mes meilleures potes encore aujourd'hui. C'est une super copine. Et en fait, chez qui je suis partie vivre assez longtemps, à plusieurs reprises, en fait, plusieurs étés que j'ai passés chez elle, qui ont débordé parfois sur les périodes scolaires, etc. Et j'ai appris l'anglais là-bas. J'ai beaucoup grandi là-bas, puisque je suis partie seule, du coup, à 12 ans, dans sa famille, du coup. Et c'est là-bas où j'ai découvert les réseaux sociaux.
Mais attends, mais tes parents sont des hippies ?
Un petit peu, oui. Un petit peu. En vrai, oui, si on regarde d'un point de vue extérieur, mes parents sont des hippies, mais ma mère est quand même est une hippie sédentarisée, on va dire, entre guillemets, puisqu'elle a quand même sa boîte depuis 20 ans.
Elle fait quoi ?
Elle a une boîte de français, une école de français pour les étrangers. C'est une des meilleures écoles de français du monde, d'ailleurs.
Ok, c'est génial pour toi,
ouais,
en termes d'ouverture sur le monde.
Ah, vraiment, moi, c'était... en fait, ça a changé ma vie. ce voyage aux États-Unis, il a tout changé parce que du coup, j'ai appris l'anglais. Donc, quand je suis rentrée au collège, je parlais un anglais nickel chrome. Et du coup, j'ai pu en fait postuler à une section internationale au lycée. Et donc, j'ai fait un double bac qu'on appelle option internationale au baccalauréat avec un double bac tout en anglais. Du coup, et après, par la suite, j'ai fait du droit franco-anglais aussi. Enfin, l'anglais a toujours été là. C'est un truc chez moi qui est toujours très fort. Et après, je suis partie en Autriche carrément 2 ans.
D'accord, donc t'as énormément bougé pendant
énormément.
En fait, c'est ton parcours scolaire et tes amitiés qui t'ont fait bouger.
Exactement, et mes amours aussi.
Ah, ouais. Et tes amours, ça ouais. T'en parles pas trop.
Parce que c'est pas un secret, mais c'est privé.
Ouais,
voilà.
Je te comprends. Du coup, donc ta maman, elle fait ça, et ouais. Ton papa ?
Et alors, mon père, il a été père au foyer. En fait, en parallèle, il bossait aussi pour ma maman, c'est lui qui lui a fait le site internet et tout. Mon père est un hippie geek. Mais sinon, il a été père au foyer, à s'occuper de mon frère et moi à la maison pendant que maman allait travailler. Et c'était tellement un truc de ouf à l'époque qu'on avait même des émissions de télé qui sont venues nous filmer chez nous et tout. On est passé sur le plateau de Jean-Luc Delarue en 2008 ou 2009 parce que c'était un truc de dingue d'avoir maman qui travaille et papa 100% à la maison, quoi. Mon père faisait partie du collectif des pères au foyer de France. On est sur un
truc. C'est génial.
ouais, non, c'est excellent.
Moi, si j'ai bien suivi ton parcours, tu commences les réseaux sociaux donc sur Ask à l'époque.
C'était vraiment le fief du harcèlement sur les réseaux sociaux en 2014-2015.
Tu subis du harcèlement déjà dans la vraie vie, c'est ça ?
Un petit peu, ouais.
Par rapport à quoi ?
Au collège, par rapport au fait que moi, j'ai été beaucoup plus vite développée physiquement. J'avais une forte poitrine, ça attirait pas mal de remarques. J'ai eu un copain très jeune, j'ai eu une vie amoureuse très jeune, une vie sexuelle très jeune. Enfin, très jeune, tout dépend voilà, de où on place le curseur. Mais effectivement, j'étais un peu hors norme ou un peu en marge. Et directement, qui que tu sois, quoi que tu fasses, dès que t'es un petit peu en marge de ce qu'il faut faire au collège, t'es mis de côté, quoi, ou t'es pointé du doigt. Donc ça a été mon cas, comme ça a été le cas de tout plein de gens. Et c'est pour ça, quand je suis partie aux États-Unis, je me suis vraiment éloignée de toutes ces choses. Et en fait, toutes ces choses étaient très, très loin de moi. Et même si elles venaient via les réseaux sociaux, je m'en foutais, j'étais inaccessible.
inaccessible.
Voilà. Si on romantise l'histoire, ça donne un peu ça, quoi.
Oui, mais du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est que à ce moment-là, tu subis du harcèlement, tu en souffres énormément, quand même. Enfin, de toute façon, qui n'en souffrirait pas ? C'est atroce, en fait.
Oui.
Le principe même de se recevoir de la haine en groupe. Et tu vas sur un réseau social où tu reçois encore de la haine, mais finalement, sur ce réseau social, moi, de ce que j'ai écouté de toi, sur les réseaux sociaux ou dans des interviews, ça va. T'arrives à le gérer.
Bah ouais, parce qu'en fait, cette haine, je vais la prendre au 10e degré et en rire et pratiquer, commencer à pratiquer l'autodérision, ce qui aujourd'hui fait que j'ai réussi un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est la capacité à rire de soi-même. Et en fait, si les gens voulaient se moquer de moi, ben en fait, j'amplifiais le truc. Par exemple, typiquement, quand on me disait pute, je répondais flûte. Mais vraiment, on était sur ce genre de choses, genre un mec qui me disait ouais, ton mec te trompe, tu vois, par exemple. Pour le coup, ce mec qui m'avait dit ça, il s'appelait Toby. sur Ask, et je me souviens très bien lui avoir répondu, j'ai répondu ouais, j'avais un chien sur une tête dogs que j'avais appelé comme toi, tu vois, que des trucs, en fait que des punchlines, en fait j'étais une punchlineuse,
ouais.
Et ça a bien marché parce que moi j'en ai ri longtemps, ça m'a fait rire longtemps. Après, la plateforme est morte, Ask,
ouais.
Ça s'est tranquillement effondré, mais du coup j'ai construit une communauté sur Instagram aussi avec ça.
Et t'as donc, commencé quand Instagram
je dirais entre mes 15 et mes 17 ans.
Mais juste, t'as commencé très jeune sur les réseaux sociaux. Tes parents te surveillaient ?
Ouais, de ouf. En fait, moi, j'ai eu un téléphone du coup quand je suis partie aux États-Unis. Et avant, j'en avais pas. Ah. Et en fait, mais j'avais déjà cet attrait. Hein. On est sur un truc que depuis toujours, j'aime ça. J'adore les réseaux sociaux. Mes parents, ils avaient un téléphone dans la salle de bain pour mettre de la musique. Que je piquais tous les soirs en cachette, il y avait un code dessus, je le connaissais. Enfin, mon père, il me chopait sur... Enfin, en gros, il faisait sauter des comptes à moi peut-être 2-3 fois par an. ils étaient pas du tout pro ça, donc...
Plutôt contre, même.
Plutôt contre, même.
Parce qu'en fait, il faut le dire, ça peut être extrêmement dangereux Parce que toi, peut-être que t'étais armée, parce que tes parents t'avaient parlé de harcèlement sexuel, je sais pas. Mais une jeune fille de 12 ans, sur les réseaux sociaux ou sur des réseaux comme ça, à subir des insultes, ça fait des suicides, ça fait des jeunes assez dépressifs. Et ouais, en plus, tu vois, tu me dis qu'il y a des hommes qui viennent te parler de tes seins, c'est du harcèlement sexuel.
Ouais, ouais, bah oui, bah ça, de toute façon,
t'en subis tout le temps.
On m'en parlait déjà dans la cour du collège, donc, oui. On se moquait de moi en sport quand je courais parce que, voilà, il y avait les seins qui bougeaient, parce que je faisais un bruit avec ma respiration. Enfin, j'ai été sexualisée très très jeune, donc ouais.
Oui.
Oh ouais.
Toi, ça t'a pas plus déprimé que ce soit là ou dans la vraie vie?
Non. Ce qui était dur, c'était plus l'image que je voyais. Enfin, la comparaison avec les autres, quoi, qui peut être hyper malsaine à cet âge-là. Je pense que c'est ça le plus dur à cet âge-là, c'est que t'es pas totalement fini, pas totalement formé, même ton cerveau, t'as rien encore, t'es personne, tu vois. Et tu te compares à des nanas qui sont plus âgées, qui sont mieux gaulées, ou que tu considères mieux gaulées, voilà. Mais ouais, non, c'est ça le danger, entre guillemets, c'est la comparaison. Et c'est pour ça qu'après, j'ai arrêté pendant un an totalement tous réseaux sociaux, parce que ça m'était monté un petit peu à la tête, et pas de la bonne...
manière.
Non, c'est assez nocif.
Mais tu reviens, tu fais ton comeback sur Instagram.
Sur TikTok surtout.
Ah oui,
ouais.
À TikTok avant Instagram.
Avant, ouais.
Ah, c'est marrant, tu vois.
Ouais, je...
Parce que t'es très très en place sur Instagram.
Oui, parce que c'est le réseau social que j'aime le plus, aujourd'hui encore, même si c'est TikTok qui m'a libérée de plein de choses et tout, ça reste le réseau social sur lequel je trouve que tu peux le plus exprimer ta créativité, parler aux gens, discuter, moi c'est très important pour moi. Et mon train quotidien au jour le jour. Mais non, ouais, c'est TikTok pendant le confinement. En fait, j'avais déjà ce compte Instagram qui tournait, entre guillemets. J'ai oscillé entre 50 000, 30 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés.
Ah, ça descendait, ça montait?
Ça montait, ça descendait. Ça dépendait aussi de mon...
Ton
de
mood.
Mon implication, de mon mood, etc. Mais j'ai quand même remarqué qu'à partir du moment où j'ai commencé à essayer de parler sur Instagram... parce qu'à la base, je postais quand même pas mal de photos quand même de mignonnettes, de nanas de 16 ans, voilà, toutes mignonnes, toutes jolies, machin. Et en fait, j'ai commencé à essayer de parler face cam. J'avais des petites collabs qui arrivaient. C'était tout début de la professionnalisation de ce milieu et tout.
Donc, t'as eu des collabs avant d'être majeure?
Ouais, mais des collabs, c'est grand mot. Hein. C'est Granola qui m'envoyait des cookies et il fallait faire une vidéo, quoi. Il n'y avait pas de rémunération, il n'y avait pas de... Enfin, c'était vraiment le tout début du truc. Et moi, ça me faisait kiffer parce que c'est un milieu qui m'a toujours fait kiffer. De toute façon, la publicité et le marketing en général. Et du coup, je commençais à parler plus face cam aux gens, à essayer de montrer plus de qui j'étais, de ce que j'étais. Et les gens se barraient. Je voyais que je perdais du monde. Et j'étais là, oula, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc du coup, j'ai un peu arrêté. Et en plus de ça, même période où je suis en train de dire, ouais, je suis pas que ça et tout, je prends à peu près entre 15 et 20 kilos. Les kilos de première année d'études, là, tu vois, tu connais, tu sors, tu bois, tu manges des kebabs tous les midis et tout. Et moi, franchement, en vrai de vrai, ça m'atteignait pas du tout.
Ah bon?
Non, en vrai, d'avoir pris ces kilos à ce moment-là, c'était pas du tout un problème.
D'accord.
Jusqu'à ce que je capte, en fait, que du coup, les gens, ils m'apportaient plus le même regard via les réseaux sociaux que ce que j'étais. Donc, là, par contre, il y a un truc... c'est mental, hein, c'est vraiment la santé mentale pure et dure de putain, mais qu'est-ce que je vaux, qui je suis, qu'est-ce que je fais, grande remise en question. Et j'ai commencé vraiment à plus me kiffer tant que ça, tu vois. Et c'est dommage.
C'est horrible.
Bah ouais, c'est horrible, surtout quand moi j'ai toujours eu une sacrée confiance en moi. Il y avait le mouvement body positif qui commençait petit à petit à émerger.
Mais ça, justement, ça émergeait.
Ça émergeait.
Mais est-ce que c'est pas devenu un peu du marketing?
Aujourd'hui, le body... oui et non. Après, moi, j'ai une définition du body positive et de tout le mouvement qui est intrinsèque à moi-même. C'est, en gros, le body positif, c'est positiver ton corps, quel qu'il soit, et de la manière dont tu le souhaites. Donc il y a des gens qui vont positiver à travers le sport, il y en a qui vont positiver à travers la photo, il y en a qui vont positiver à travers le make-up et à travers tellement tellement de choses que pour moi ça peut pas devenir marketing à partir du moment où tu dis en fait se faire du bien et faire des choses qui font du bien à notre corps. Et ça peut passer par vraiment mais tellement de manières différentes. Ça peut devenir marketing quand des marques utilisent de plus en plus de modèles plus size, donc c'est génial pour de la représentation par exemple, mais c'est vrai qu'il y a un aspect marketing qu'il faut pas oublier. Mais dans la philosophie même du mouvement, Moi, c'est vraiment positiver son corps de la manière dont tu le souhaites et juste arrêter de te flageller et de te faire du mal en face de ton miroir parce que ça n'amène à rien.
Toi, tu te trouves belle?
Ouais.
Genre, vraiment, toi, tu te regardes dans la glace, ton visage, ton corps, tu te trouves belle?
Ouais, après, c'est subjectif, la beauté, mais...
Non, mais parce que ça, c'est un travail énorme.
Mais je trouve que je suis une bête de meuf. Genre, je trouve que j'ai la patate, j'ai envie, et je me lève avec envie de faire des trucs dans ma vie. Et ça, en vrai, c'est la base, quoi. Sinon, après, t'es dans un cercle vicieux.
Et c'est la dépression.
Ouais.
Alors, t'es sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Ouais. Donc... Tu l'as dit, TikTok en premier, Instagram après.
Ouais.
Enfin, les deux sont un peu à côté, quoi.
Les deux sont joints, mais on va dire qu'à partir du moment où je commence à faire des vidéos humoristiques sur TikTok, chose que j'avais essayé de faire sur Instagram et qui avait complètement foiré, parce que c'était pas pour ça que les gens me suivaient. Quand je commence à balancer le concept un peu des vidéos folles dingues, un peu déjantées sur des audios, sur du playback, etc., ça cartonne.
Bah là, tu te dis, c'est bon, j'ai ma ligne édito. Et en plus,
c'est ça.
C'est en fait la ligne édito qu'on a sur les réseaux sociaux. Il faut que ça colle exactement avec notre quotidien.
Et avec qui on est, avec ce qu'on est en général, ouais. Et du coup, ouais, je me suis dit, vas-y, je vais rire de moi. Parce que j'étais pas encore totalement réparée de l'image que j'avais de moi non plus.
Mais ça, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, quand t'as pris du poids.
Non.
Est-ce que c'est devenu aussi des hommes qui t'entourent, des femmes, je ne sais pas?
Les hommes, non, pas vraiment. Après, de femmes qui m'entourent, ben oui, ouais, je pourrais te citer ma maman, qui est, voilà, comme toutes les mamans, tu sais, qui est née dans une autre génération, celle des magazines féminins, etc., qui voit sa fille prendre du poids, mais parce qu'elle a oublié peut-être qu'elle aussi, à 21 ans, ben, elle était rondouillette et que, enfin, c'est complètement irréaliste de penser que, ben ouais, sur tes premières années d'études et sur tes premières années de vie active, t'auras la même forme physique, c'est, non. mais oui, non, ma mère me l'a fait remarquer, comme le font toutes les daronnes, je pense, ou toutes les grand-mères. Tu sais, dommage, t'as un joli visage, voilà. Ce genre de
phrases assassines.
De phrases insupportables, mais d'un autre côté, on y échappera que lorsque les standards et les normes seront totalement, chamboulé, ouais. Et ébranlé, quoi. Pour le moment, c'est pas le cas, donc.
Moi, j'ai une maman qui prenait tous les matins, son
tour de taille,
son maître, ouais. Et faisait tous les trucs. Parce qu'elle a été élevée comme ça.
Ouais, c'est ça.
En plus, il y a eu la danse classique et tout, donc elle a été dans un truc, alors qu'elle est hyper féministe. Et donc, je disais, maman, ça colle plus,
ça colle pas.
Discours et tout. Et du coup, je me retrouve vachement dans ce que tu dis, et surtout, je me retrouve dans un truc avec toi. En fait, t'as des combats, t'as des engagements, mais t'es pas du tout énervée.
Non, parce que, non. Je pense que tu ne me verras jamais, ou même les gens très très proches de moi ont dû me voir une ou deux fois dans ma vie entière péter un plomb ou m'énerver.
Mais tu te contiens ou jamais?
Non, c'est juste que j'ai très peu d'énervement en moi et c'est très cool. Mais c'est vrai qu'il y a rien qui me révolte, il y a des choses qui me révoltent et pour lesquelles j'ai envie de me battre et d'obtenir justice, etc. Mais dans mon quotidien, en général, je m'énerve jamais. Je prends beaucoup les émotions, je suis beaucoup dans l'introspection. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça, là? Et ouais.
Donc, t'as ce côté, je veux dire, social media, hyper solaire, tu montes tout, c'est ok, machin.
Ouais.
Mais sauf que parfois, t'es chez toi en boule, sous ta couette, à pas savoir ce que tu dois faire de ta vie, quoi.
Ah ben, quasi, ouais, un jour sur quatre, un jour sur cinq. un jour sur cinq, je suis en mode pète sa mère, trop bien, je suis la reine du monde, j'ai tourné 15 vidéos aujourd'hui, il y a plein de trucs que j'ai à dire et tout. Et la semaine d'après,
rien.
C'est la dep, je suis dans mon lit. Mais c'est ça, c'est le jeu. Il y a des jours où tu te sens la reine du monde et des jours où tu sais pas trop ce que tu fous là. Moi, j'ai 23 ans, j'ai aucune idée de ce que je veux faire, manger, choisir, devenir, réaliser, concrétiser. Aucune idée.
Mais justement, il y a un truc que t'as partagé hier en story. C'est quand je prévois de faire 1000 trucs.
Ouais, je fais rien.
Et je fais rien de ma journée. Mais ça, c'est tellement moi. En fait, ça, c'est tellement nous. Parce qu'on est entrepreneurs.
Il y a de ça aussi. Parce qu'en fait, tout dépend.
Parce
tout
que
dépend
si t'as
de
un
toi.
Taf où tu dois être de 8h à 18h, bah, tu peux pas.
Non, je l'ai déjà. J'ai bossé aussi dans des trucs où le matin c'était très tôt. Ben, typiquement la radio, des choses comme ça. Et non, c'est pas du tout le même rythme. Mais là, du coup, tout dépend de toi. C'est-à-dire que le salaire à la fin du mois, c'est toi qui allais le chercher, c'est toi qui t'es... Enfin, même en tant que salarié ou quoi, tu vas chercher ton salaire, mais je veux dire, t'as moins de risques, on va dire. Et là, le risque, des fois, il est angoissant, parce que tu dis, ça se trouve, demain, c'est fini. Enfin, tu sais pas, quoi. Mais moi, ça me va de vivre comme ça, parce que je suis un peu comme ça, jamais trop su ce que je voulais. Et c'est un peu mon problème, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de possibilités, j'ai pu faire beaucoup de choses, et j'ai jamais trop choisi, quoi. Et j'ai pas envie, en fait, je crois, finalement, de choisir, et je préfère me laisser embarquer par ce qui m'arrive, par ce qui se passe. Et après, c'est un mode de vie différent, mais c'est un mode de vie quand même, quoi.
Ça, c'est une question que je pose à tous mes invités.
Ouais.
C'est combien tu gagnes? Sauf que j'explique pourquoi je la pose, parce que pour moi, c'est hyper important que les gens comprennent le travail. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, quand je demande à Alix Grousset combien elle gagne et qu'elle me dit 1500 euros pour un réel, en fait, derrière le travail...
Ah bah, surtout Alix.
Oui. Surtout Alix. Oui, surtout Alix Grousset. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un travail monstrueux de montage, de brainstorm, d'idées, de machin, comme parfois, parce que là tu me regardes, tu me fais les gros yeux, tu vas avoir une idée, tu la tournes en 2 minutes,
oui, voilà.
D'accord, mais pourquoi tu la tournes en 2 minutes? Parce que t'as appris à monter, parce que tu connais les codes des réseaux sociaux,
oui,
parce que tu fais de la veille, parce que... Et en fait, tout ça, c'est un travail énorme. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est là où tu cartonnes le plus, c'est les réels, non?
Ouais.
Alors c'est ça qui fait que ça fait monter tes réseaux et
C'est comme ça que sur quand j'ai commencé à, en fait j'ai reposté mes TikTok le premier jour où Instagram a mis Reels sur Instagram. J'ai fait partie des premières à les mettre et du coup ça a cartonné et c'est toujours le contenu qui cartonne le plus aujourd'hui, mais c'est pareil si tu commences à mettre des shorts sur YouTube directement, ben l'algorithme va te pousser à un moment donné. Et donc j'ai été pas mal poussée par l'algorithme, j'ai réussi à maintenir le truc, donc ça c'est cool.
Donc toi t'as une manager, c'est ça qui s'occupe de toi?
Ouais.
Un agent?
Ouais, j'ai un agent. Ouais.
Un agent, c'est chic, comme les acteurs. Donc cette personne va te chercher des contrats, ou alors on l'appelle pour des contrats.
Ouais, voilà. En fait on me contacte moi.
Des enfin, marques
après, moi je travaille vraiment en totale transparence, c'est-à-dire qu'on est que deux déjà. Je suis pas dans une grosse agence. Je travaille avec cette nana depuis 2 ans et en fait la boîte mail est totalement partagée. Donc en fait toutes les demandes entrantes, donc toutes les marques qui me contactent tous les jours, hein, on peut aller jusqu'à 15 à 20 mails par jour de marques sur des grosses journées. Ben en fait on va faire le tri ensemble sur ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas, ce qui va être intéressant pour ma communauté également. Est-ce qu'il y a des choses à faire gagner? Est-ce qu'il y a du code promo? Est-ce qu'il y a il y a un concept? Est-ce que je suis libre? Est-ce que donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans le choix des marques avec qui on va bosser. Et aller sur ces on va dire 10 mails dans la journée, il y en a peut-être un ou deux que je vais retenir, et à la fin de la semaine peut-être que ça va jamais se faire parce que après on rentre en négociation, et donc là tu commences à négocier le nombre de contenus, le tarif attribué à ces contenus là et tout ça.
Mais alors si tu disais oui à tout, tu serais millionnaire?
Ah ouais, bah oui, bah comme tous les influenceurs à Dubaï qui acceptent tout et n'importe quoi.
Oui, parce que tu reçois plein de ce qu'on appelle le dropshipping et de choses comme ça.
Même pas tant que ça.
Parce qu'ils ont repéré que c'était pas toi.
Bah parce qu'en fait, je suis pas un profil. Par exemple, je sais que c'est ce genre de partenariat, elle se fait beaucoup plus sur Snapchat, par exemple. Moi, je suis pas du tout. Je suis pas du tout sur cette plateforme ou sur TikTok. Il y en a aussi qui en font un petit peu du dropshipping, mais non, moi j'ai pas. Moi, en vrai, ce qui est cool, c'est que je me fais contacter partout et n'importe quoi. Donc j'ai vraiment le choix. Ça peut passer de Netflix à la Fédération française de la banane. je rigole pas.
Et donc ton agent, elle fait quoi? C'est comme dans 10%, elle prend 10%?
Non, mon agence, elle prend 20%.
Ah ouais?
Ouais.
C'est cool.
Ouais. Ouais, mais ça va franchement par rapport à, je sais, j'ai déjà entendu autour de moi dans le milieu, il y a des agences qui prennent beaucoup plus. Donc non, la mienne.
Mais elle gère quoi? Elle gère juste ça, ce lien avec les marques, la négociation et tout?
Et toute la contractualisation.
Ah.
Ensuite, moi, je facture. Et ensuite, elle gère tout ce qui est versement du paiement dans les temps, etc. Et après, elle gère vraiment toute mon orga, tout mon planning. Tu vois, là, ce matin, je sais où j'allais et ton numéro de téléphone, puisqu'elle me l'a noté dans un doc. Enfin, on est vraiment sur un...
C'est trop bien. Ouais. Parce qu'il faut que toi, à côté, tu crées. Donc, faut pas que tu sois dérangé par ça.
Ouais. Après, faut que je crée. C'est ce que j'essaie de me dire tous les jours. Faut que je crée. Mais des fois, faut aussi que justement j'aille chercher l'inspi aussi.
Que tu vives.
Ouais, que je vive. Depuis que je fais ça à 100%, c'est-à-dire que j'ai quitté mon taf conventionnel, entre guillemets, c'est une pression, ça, tu vois, de est-ce que je vis assez de choses pour parler aux gens, est-ce que je vis assez de choses pour raconter aux gens, et du coup, ben, comme font la majorité des créateurs de contenu, ben, on va aller voyager, tester des nouvelles choses, ces expériences, aller voir un peu le monde, quoi.
Tu peux nous dire, par exemple, combien tu factures un réel pour que les gens y comprennent?
Un réel, je le facture entre 3 000 et 5 000 euros.
Pour les gens, c'est une somme énorme.
Ah, c'est énorme.
Mais tu déduis tes impôts.
Oui, donc impôts, URSSAF, les 20% de l'agence, évidemment, et la TVA.
Oui, donc, mais bon, tu gagnes très très bien ta vie.
Et très, extrêmement bien.
Et tu fais quoi? T'investis ton argent?
Pour le moment, j'ai pas investi.
T'as pas acheté un appart ou...
Pour le moment, je ne dépense absolument rien.
Et tu dépenses pas?
Je ne dépense rien. Là, par exemple, j'ai dépensé. Parce que je pars, petit scoop, je pars à New York un mois, là, solo. Et là, pour le coup, j'ai dépensé pour pouvoir me loger, pour prendre mon billet d'avion. Mais
t'as pété le pécule, là.
J'ai pété le pécule, voilà, le mois à New York à 2000 euros. Oui, très cher. Ouais. Mais par exemple, jamais de ma vie entière, tu me verras acheter un sac à ce prix-là, par exemple.
Ouais, c'est pas ton truc.
C'est pas mon truc. Et ouais, j'ai été élevée avec une notion de l'argent qui est que l'argent, c'est une sécurité de ouf. Enfin, moi, à 23 ans, de me dire que je peux coffrer tout cet argent-là et je sais pas ce que j'en ferai encore, j'en ai aucune idée.
Mais moi, à 23 ans, j'aurais fait n'importe quoi.
Bah, ouais,
moi, je pense j'aurais acheté un bar, genre.
Mais typiquement, je pourrais faire des trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, j'ai trop cette notion de oulala, faut que je coffre avant que, je sais pas, moi, que ce soit régularisé, que, regarde,
ou
aujourd'hui.
Que ça s'arrête, hein.
Ou que ça s'arrête, mais je vois aujourd'hui qu'on est sous le feu des projecteurs en tant que créateur de contenu par rapport aux sommes qu'on gagne, etc. Je sens un peu les législations, les taxes qui vont être plus élevées. Là, ils veulent, par exemple, créer un statut de créateur de contenu à part entière, donc différent du statut d'auto-entrepreneur. Donc, un statut en lui-même qui serait que pour les créateurs de contenu. Et donc, on ne sait pas ce que ça va
être. Est-ce que ça va être plus taxé, moins?
Voilà, ouais. Par exemple. Donc non, pour le moment, je prends ce que je peux prendre. Et surtout, je mens pas aux gens. Je pense que je suis assez authentique dans mes collaborations. Et surtout, je choisis que des marques avec lesquelles j'ai des vraies affinités, que je consomme vraiment et qui me font kiffer pour de vrai, quoi.
Et tu vérifies tout, si ça vient de Chine, par exemple, ou d'un camp ouïghour?
Tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est sap, toutes les fringues, tu vois, tu sais qu'il y en a la majorité qui viennent de Chine. Tu sais que si tu collabores avec une marque de sneakers et que tu reçois une paire de Nikes, tu sais qu'elles viennent des Ouïghours. Enfin, c'est ça, je suis pas insensible du tout à ça, mais...
Tu le fais quand même? Ce genre de collab?
Je le fais quand même.
C'est vrai?
Ouais.
C'est marrant parce que tu l'affirmes, quoi.
Ah oui, en fait, moi, je pars du principe que je suis déjà sur beaucoup de combats. Le féminisme, l'acceptation de soi. Je défends beaucoup de choses déjà. Et on peut pas être sur tous les fronts, pour moi. On peut pas, c'est pas parce qu'on est créateur qu'on doit être et féministe et respectueux de l'environnement à 100% et ne pas prendre sa voiture et ne plus jamais prendre l'avion et machin. Sous prétexte qu'on a une visibilité, une notoriété ou je ne sais quoi, c'est en vrai de vrai, c'est un truc qui profondément me saoule, surtout que je n'ai pas pour moi un impact écologique vraiment important par rapport, si je compare typiquement aux chefs d'État, aux très grandes stars américaines, internationales, etc. Pour moi, c'est à ces gens-là qu'il faut s'en prendre et pas aux petites gens qui sont comme tout le monde finalement. Et qui sont déjà sur des combats, pour le coup.
Et justement, sur tes réseaux sociaux, moi, je trouve ça très différent des autres influenceuses ou créateurs de contenu qui ont cet engagement body positive. Toi, tu parles quasiment que de ça, de petits trucs du quotidien, mais tu fais pas des choses, des stories de 10 minutes sur ton quotidien exact, ton mec, ta
non.
mère, ton père, ton frère, tes potes.
Non, pas d'intérêt. Donc, pas d'intérêt pour...
Donc, tu mélanges, il y a des choses que tu ne mélanges pas.
Ouais.
Et les gens, ils te le reprochent?
Pas du tout.
Ah ouais?
Non, honnêtement, okay. Moi, je le ressens pas, en tout cas. Après, je sais que les gens, ça les intéresse. Ça les intéresse, c'est sûr et certain. À chaque fois que je mentionne mon copain ou que je dis qu'il est dans telle ou telle vidéo YouTube, ça clique, oui, ça intéresse. Après, comme je disais, c'est... c'est pas secret. J'ai un mec, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai plein de potes, mais c'est privé, quoi. C'est.
Et t'es reconnu dans la rue?
Ah, de ouf.
Et t'aimes bien?
Ouais, c'est grave bien. Moi, j'adore.
Oui, tu le voulais, ce succès-là.
Ouais, en vrai, ouais. Honnêtement, je suis trop contente que d'avoir construit une relation avec les gens, et c'est des vraies relations en fait. Par exemple, là, j'ai pour objectif cette année d'aller dormir un peu chez des abonnés.
Génial.
Donc dans plusieurs villes de France, en Belgique, enfin de voyager en fait avec eux, parce qu'en fait c'est des meufs tout comme moi. Les nanas qui me suivent, parce qu'on va dire qu'il y a 80% de meufs et 20% de mecs qui me suivent. Et même les mecs, ils sont hilarants. À chaque fois, moi, quand j'ai croisé des dizaines d'abonnés en festival, c'est incroyable, quoi. C'est comme si c'était des potos. Ils connaissent toute ta vie. Ils sont tous sourires. C'est des nanas adorables qui te remercient. Et alors que bon, il y a rien vraiment à remercier, tu vois. On a fait le travail ensemble, finalement.
Et du coup, comment tu t'organises tes journées?
Pouf. Bonne question. C'est un peu au rythme de ce que j'ai dans la journée. Là, par exemple, j'ai une interview, après j'ai un déj, et après il faut que je tourne un truc, tu vois.
D'accord.
Et ça va me prendre la journée. Et ce soir, combien de temps
tu mets pour tourner une vidéo?
Ça dépend. Honnêtement, comme tu disais tout à l'heure, ça peut me prendre une journée entière à bugger sur juste un mot dans la phrase du POV, tu vois, ou de l'insight.
Ouais.
Et
c'est le petit ce qui a marqué sur la vidéo. Ouais, je parle pour ma mère, hein, si elle t'écoute vraiment.
Désolée. Ouais. L'insight, c'est le truc qu'on a tous en tête ou auquel on peut tous se référer. C'est cette phrase qui doit claquer, tu vois, et qui parfois me prend un peu la tête.
Et tu écris avant?
Ouais, j'écris. J'écris, okay. J'en écris beaucoup. J'écris énormément. Dans mon téléphone, j'ai énormément de notes. J'ai beaucoup trop de screens aussi de sons, d'audio. Parce que moi, je dois produire à peu près, par mois, je dois produire, je sais pas, 40 vidéos.
Mais non.
40 à 45 vidéos. Et c'est rien par rapport à d'autres TikTokers qui sont présents tous les jours et qui postent 10 à 15 vidéos par jour. Ça a rien du tout. C'est rien.
Donc, c'est une charge mentale.
Il y a la charge mentale de production. Mais après, il faut que ce soit quand même qualitatif à un moment donné. Et puis, il faut qu'elle ait été collaborante. Il ne faut pas que ce soit trop pour les gens. Moi, je fais très peu de collaboration, finalement, quand on regarde.
En fait, tu produis beaucoup plus de contenu que ce que tu vends, quoi.
Aussi.
Ouais.
Aussi. Et
ça, pareil, les gens, ils kiffent, je pense.
Bah ouais. Bah ouais, parce que quand tu regardes quelque chose et que tout est sponsorisé, ben, tu te demandes où est l'authenticité là-dedans, finalement. Donc, non, moi, le but, c'est de faire le maximum de vidéos drôles qui parlent au maximum de personnes. Et après, pour ce qui est des collabs, je sais que ça va intéresser certaines personnes, mais que ça peut pas, ça va pas toucher peut-être autant de personnes que mes vidéos qui font 2 millions, 3 millions de vues sur Instagram, quoi.
T'as parlé du milieu, le milieu de l'influence. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le milieu des médias, le milieu du cinéma, le milieu de la musique. C'est un petit milieu et tout le monde se connaît un peu de près ou de loin et tout ça. Il est sympa, ce milieu, ou pas?
Ah, grave. Moi, je kiffe. Moi, de toute façon, je prends tout ce qu'on me donne. Hein. Depuis le début, je kiffe quand les gens viennent me voir dans la rue. Je kiffe rencontrer d'autres créateurs. J'aime beaucoup ce milieu. Je le prends avec beaucoup de recul aussi, parce que il y a beaucoup de jeunes. Ça peut vite se comparer, se regarder, etc. En vrai, moi, je m'en branle. Mais j'ai rencontré des nanas trop cool.
Genre qui?
Je te dirais Zoé Otuki, qui est une fashionista vintage, hyper solaire, hyper chouette. J'ai une copine qui s'appelle Anissa, qui est extrêmement engagée sur tous les sujets de la jeunesse, avec son asso et tout. C'est des très bonnes copines, des collègues d'amour, comme on a tous sa collègue préférée au taf. En vrai, c'est exactement la même chose. Quand je vais sur un événement et que je sais que va y avoir telle nana ou telle nana, je suis trop contente, parce que je me dis, je vais passer une bonne soirée, je suis avec des nanas que je kiffe. Et voilà, ou des mecs que je kiffe.
Oui, parce qu'en fait, tu parles beaucoup de femmes.
Ouais.
Et sur tes réseaux sociaux, t'es suivi plus par des hommes ou par des femmes?
Par des femmes, 80% de femmes. Wow. J'ai quand même 20% d'hommes. Ce qui est, en fait, quand tu regardes toutes les influenceuses body positive, etc., ce qui est énorme. Et j'ai même des marques qui me le reprochent, que mon audience n'est pas assez féminine.
Quoi?
Alors que c'est déjà énorme, tu vois, mais pour vendre des culottes menstruelles, s'il y a 20% d'hommes, bon, c'est pas forcément, tu sais pas vraiment, tu vois.
Peut-être qu'un homme pourrait en acheter à sa conjointe.
Totalement. Et ça, en vrai, moi, j'en ai plein des mecs qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont pris ça à leur meuf, tel soutien-gorge, blablabla. Et en vrai, les mecs qui me suivent, ils sont géniaux, je les trouve trop drôles. Et c'est vrai, je les oublie souvent, je les délaisse un petit peu, les pauvres. Mais ils sont toujours là. Sur TikTok, ils sont plus nombreux, je crois qu'ils sont genre 35% sur TikTok de mecs. Et à chaque fois, ouais, je les croise en festival, c'est « Ouais, meuf, t'es grave, gaulerie, tu régales comme les meufs, elles me disent, quoi. »
Ouais, mais alors, dans les mecs qu'il y a,
ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas des mecs aussi qui viennent pour regarder tes seins?
Ah bah ça, aussi.
Non, mais parce que quand j'ai tapé ton nom dans Google...
T'as eu Reddit direct
ouais.
Ouais, bah ouais, normal. Je sais pas ce que font les autorités, je comprends pas. Nous, on les a contactés 10 milliards de fois.
Parce qu'en fait, ils détournent des photos de toi de body positive où t'es ouais. En soutif.
Ouais, ou des photos en maillot.
Ouais, ou en t-shirt, en fait. Hein. C'est-à-dire que... Et c'est détourné comme étant des photos limite pornographiques.
Ah mais totalement, en fait, c'est de l'appel à la masturbation. Donc sur ces forums, parce que moi je les ai beaucoup consultés ces forums, j'ai fait sauter un compte notamment qui avait le même pseudo que moi, à la lettre près. Et donc du coup quand on tapait Justine Accessible sur Google, c'était directement le profil qui arrivait, qui était suivi par peut-être 15 000 personnes, un truc comme ça sur Reddit. Avec que des photos de moi, avec donc appel à la masturbation. On est sur des trucs vraiment hardcore. En vrai, c'est dégueulasse. Mmh. Ça me répugne et ça arrive et c'est toutes les créatrices de contenu. Tu peux nommer n'importe quelle meuf, tu tapes son nom, Reddit, il y a un truc de vous lui faites quoi à celle-là, enfin que des dingueries.
Donc en fait, toi, le harcèlement, il jalonne toute ta vie et toute ta carrière,
toujours.
Il y a toujours. Et à côté de ça, t'es quand même hyper positive et tu te marres. Mais ça, c'est le genre de truc quand même, ça te pèse. Ça peut te faire pleurer, ça peut te déprimer.
Non, ça pour le coup, moins.
Ça t'énerve.
Le truc de QS, ouais, ça m'énerve parce que je suis pas d'accord et que j'ai jamais donné mon accord. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des photos que tu peux screener n'importe comment. Enfin, ok.
C'est là où les réseaux sociaux, faut quand même lancer un peu l'alerte. Mmh. C'est que c'est incontrôlable.
Bah ouais. Oui, il y a cette notion-là. Non, moi, ce qui va plus me faire mal ou me toucher, ça va être la grossophobie.
Tu reçois beaucoup de haters sur tes réseaux?
Énormément, alors que ouais, c'est très dur parce que les gens ont un problème avec le gras en général. Et moi, je me considère pas comme une personne grosse. Je suis grasse, oui. Et donc, du coup, les gens t'attaquent sur le fait que tu kiffes ton corps qui est un petit peu trop gros pour eux, tu vois. Bon, soit. Moi, au fond du fond, moi, je m'en fous. Mais ça me pique pour les nanas qui me suivent et qui typiquement vont être par exemple qui vont souffrir d'obésité par exemple ou qui vont vraiment être dans un surpoids qui est difficile à gérer qui est vraiment dur etc. Quand elles voient ce genre de commentaires sous mes vidéos, moi je sais ce qu'elles vont faire, je sais la mécanique intellectuelle derrière la comparaison de putain mais si elle est grosse moi je suis quoi et machin et nanana. Et c'est pour ça que là pour le coup je suis un peu énervée tu vois mais ça me révolte, ça me saoule, ça m'énerve, c'est pas normal.
Tu les effaces les commentaires comme ça?
Non, j'y réponds.
Ah ouais?
J'y réponds, pas à tous, heureusement pas à tous, mais typiquement quand en fait j'ai un dossier dans ma pellicule photo qui s'appelle grossophobie avec toutes les pires punchlines, truc de elle a le corps de la boulangère, fait du sport, va faire du sport bichette.
Oui, parce qu'il faut le dire, il y a des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Hein.
Ah oui, il y a des femmes. Ouais, il y a des femmes. Après, moi, personnellement, c'est beaucoup plus des hommes. Parce que j'ai aussi la notion féministe qui va engendrer sur TikTok. Parfois, en fait, tu passes dans certains algorithmes de certaines personnes. Typiquement, ouais, tout ce qui est contenu féministe, libération féminine par le corps et par le fait de se montrer, etc. Tu vas tomber dans une for you page, une page pour toi. Vachement plus agressif, beaucoup plus méniniste et avec des hommes beaucoup plus virulents. Et après, des fois, tu tombes sur des pages de gens qui sont juste super love et super contents, mais tu peux pas échapper aux commentaires dès que tu montes ton corps de quelque chose. Ça, c'est sûr. Et en fait, moi, c'est pour ça que je me bats, c'est pour qu'on arrête de parler du physique des autres. Bordel.
T'as peur des chiffres? Genre quand ça descend, ça monte, tu regardes?
Ça dépend des périodes. Dans les périodes où je suis extrêmement productive, où je vais être super contente de mon contenu, où voilà, je suis fière de mes vidéos, etc. Oui, si ça cartonne pas ou quoi, je vais être déçue. Ça, c'est sûr. Après, sur les périodes où je suis moins productive, où je suis moins créative surtout, parce qu'il y a des périodes où t'es beaucoup moins créatif. Et là, actuellement, par exemple, c'est une période où je suis beaucoup moins créative. Genre, j'ai du mal un petit peu, c'est pour ça que je me casse, justement. Mais non, là, sur les périodes où je suis moins créative, je vais, ouais, plus, je vais regarder les chiffres et ça va un peu me... Ça va miner, mais en même temps, je vais me dire, c'est normal, t'as rien foutu. Donc, enfin, pas t'as rien foutu, mais c'est normal, t'as pas été... En vrai, tu sors pas un truc insolite, un truc ultra drôle que personne n'a jamais vu. Donc, c'est normal. C'est, en fait, il faut être réaliste par rapport à son contenu aussi. Il y a pas mal de créateurs de contenu qui partent du principe que c'est bon, ils font une vidéo, ils font un post, tout le monde va adorer, tout le monde va surkiffer. En fait, il y a des fois, c'est juste nul. C'est juste nul, c'est juste pas créatif, c'est pas drôle, c'est pas imaginatif. Et ça marchera pas, et puis c'est tout, c'est comme ça.
Là, tu pars à New York, c'est ça?
Ouais.
Toute seule?
Ouais.
Toute seule.
En gros, j'ai une pote qui a été mutée là-bas, et qui bosse là-bas, et du coup, j'ai aussi pris un appart là-bas. Et elle est arrivée il y a un mois, et moi, j'arrive là dans 10 jours.
Qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Je pars du principe que t'es pas obligé de voyager pour faire quelque chose et tu peux juste aller vouloir vivre dans une ville pendant un mois ou deux juste pour découvrir la ville et pas pour avoir un objectif particulier. Après là, pour le coup, j'ai un objectif que je peux pas dire tout de suite, mais c'est un projet qui va être sur l'année mais que je vais essayer de démarrer là-bas.
Est-ce que parfois t'as le syndrome de l'imposteur? Tu te dis... Moi, je mérite pas. En quoi je suis légitime pour parler de ces sujets parce que je ne suis pas Mona Chollet. Tu vois, enfin, genre, j'ai pas écrit 40 bouquins dessus, je suis pas une scientifique, je suis pas. T'as pas ce truc-là?
Je l'ai, oui et non. Enfin, je l'ai quand je vais me retrouver, ouais, en société avec des gens qui font des jobs normaux et stylés aussi, tu vois. Enfin, il y a trop de trucs dans le monde, il y a trop de professions trop cool. Et quand ils vont demander ce que je fais moi dans la vie, ouais, je vais avoir tendance peut-être à minimiser le truc en mode ben moi je me cherche. Pour le moment, je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux, mais voilà. Ah ouais, t'es influenceuse, oui, on peut dire ça. Voilà, je vais minimiser un petit peu. Ouais, parce que même si c'est un métier et que c'est trop cool,
il y a une partie de la population qui le comprend pas.
Clairement.
Et ça va venir, ça va évoluer.
Et c'est pas très grave, ouais.
Il y a quelqu'un avec qui tu rêves de bosser? Genre là, je te dis, demain, tu fais une collab ou un feat avec quelqu'un.
Ouais, de ouf. Avec une marque?
Une marque ou une personnalité?
Moi, c'est Smiley. La marque Smiley, ils font plein de collabs avec tout plein de monde et plein d'autres marques et tout. Et j'avoue que...
Le message est passé.
Ouais, une co-production, une co-création avec Smiley, ça me ferait kiffer de ouf.
Et une personnalité connue?
Et une personnalité connue, moi, il y a Lily Pons que j'aime énormément, qui est ma première, en fait, même première inspiration Vine... toutes ces vidéos à la con là, j'adorais ça.
Ouais, elle est incroyable parce que elle peut autant être une sorte d'icône vraiment la nana
de,
super bonasse
de sapie, ouais.
Et en même temps, la meuf s'en fout royale et elle montre tout, hein. Par contre, elle montre toute sa vie, hein.
Ouais, c'est vrai. Bah elle l'a fait doucement. Elle a commencé quand au début, elle le montrait pas tant que ça et après évidemment, je pense qu'avec la notoriété et tout, tu montes de plus en plus, mais doucement, à son rythme, tu vois, je pense qu'elle l'a fait.
Mais là, on parlait de santé mentale.
Ouais.
Et du coup, tu disais que t'as des passages à vide, un peu comme tout le monde, et des passages très hauts. Mais est-ce que t'es un peu comme tout le monde, ou est-ce que t'as des vrais passages très anxieux? Tu fais des crises d'angoisse, comment tu les gères?
Bah, regarde mes doigts.
Oui.
Ouais, non, j'ai des grosses crises d'angoisse. Comment je les gère, ouais, je chiale un bon coup, en vrai, comme tout le monde. Et après, comment je gère, en vrai, pour le moment, j'ai pas encore trouvé la solution pour gérer.
Miracle.
Ouais, miracle ou.
Tu vois peut-être un thérapeute ou.
Même pas. Pour le moment, c'est pas quelque chose vers lequel je me suis tournée. J'ai
tu
envie
fais
de...
du yoga.
Ouais, voilà. Là, je pars en retraite de yoga demain.
Mais non.
Ouais.
Trop bien. Mais elles viennent d'où, tes angoisses?
Mes angoisses, elles viennent de la pression que je me mets depuis toute jeune de réussir. Réussir quoi? Très bonne question. Pression de réussir. Voilà. C'est encore une introspection que j'ai à faire avec moi-même, encore du travail que j'ai à faire avec moi-même. Mais en gros, c'est angoissé de pas y arriver. De
mais
pas
arriver à quoi? Tu sais pas.
Je ne sais pas. Pour le moment, je sais pas. Donc non, mes crises d'angoisse, je les vis encore, je les prends, je me ronge les ongles, je pleure un bon coup et après en fait je souffre, je souffle, je ressouffle et je me dis putain, ça va aller en fait. Okay.
Et ça redescend.
Et ça peut redescendre. Enfin, oui, ça peut redescendre comme ça, comme ça peut redescendre. Tu verrais, mon téléphone, c'est des to-do list à rallonge. Parce qu'il n'y a que ça qui me canalise et il n'y a que ça qui arrive à me. En fait, à me. à m'aider ouais,
à gérer le stress.
À gérer le stress, ouais.
Oui, parce que c'est beaucoup de stress. Parce que dès que ça marche, ben, il y a la pression que ça ne marche plus.
Ouais, il y a ça. Mais comme je dis, encore une fois, la vie de personne ne dépend de ce que je fais. Ça, par exemple, mon agent me le répète souvent. Genre, personne ne va mourir si on ne répond pas à 22h30, tu vois. Pour relâcher cette pression d'anxiété de vouloir réussir et tout, il y a un truc quand même que je me dis, c'est que tu peux pas être tout ce que tu veux être tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je voudrais être dans ma vie, mais ça peut pas arriver tout cette semaine. Tu
vois. Heureusement.
Et heureusement. Mais ouais, il faut se dire ça. Il faut se dire qu'en fait, tout ce que tu veux faire ou tout ce que tu veux être, ben ça va pas pouvoir se passer tout de suite parce que ça prend du temps et que.
Et toi, tu penses que si on se bat à fond pour ce qu'on veut, on y arrive à un moment donné?
Ouais, de ouf. Ouais. Moi, je suis quand même de cette mentalité-là de. Un peu à l'American Dream, tu vois.
Les lois de l'attraction, tout ça.
Les lois de l'attraction, de tout ce qui t'arrive, tu l'as attiré à un moment donné, que ce soit positif ou négatif. Et ouais, et surtout, je suis pour le fait de remplir son cerveau à balles avec plein de trucs différents pour pas se retrouver justement sans rien si un jour tu...
Tout s'arrête. Qu'est-ce que maintenant tu pourrais conseiller à l'auditeur qui écoute et qui veut se lancer sur les réseaux sociaux en tant que... qu'artiste comme toi, ou enfin, je sais pas comment on peut dire, mais en tant que créateur de contenu, parce que comme ça c'est large et ça laisse la place à l'imagination. Les trois conseils de Juste Inaccessible.
Trois conseils de Juste Inaccessible pour se lancer sur les réseaux sociaux. Tout dépend de l'objectif, c'est sûr que. En fait, il faut un objectif, déjà, je pense. Pas forcément très précis. Moi, par exemple, j'avais pas d'objectif précis en me mettant sur la plateforme, mais il faut avoir un objectif personnel. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me montrer? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de parler aux gens? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire rire? Est-ce que c'est parce que j'ai comme but d'aller animer un podcast ou d'aller travailler à la radio ou je ne sais quoi? Donc là, déjà, il faut avoir un objectif personnel. Et ensuite, pour ce qui est de la diffusion du contenu, honnêtement, est-ce que j'ai des conseils? Même moi, je me cherche encore un peu aujourd'hui, mais n'allez pas vous travestir en ce que vous n'êtes pas pour vous plier à des tendances ou des choses qui marchent. Oui, ça marche pour certaines personnes, mais peut-être pas pour vous. Et pareil, s'il y a des trucs nuls, ben c'est normal. En vrai, si vous faites des trucs vraiment pétés en l'air, c'est normal. Et dans ces 30 trucs nuls, il y aura peut-être 2 trucs trop bien. Donc écrivez plein de trucs. Si vous écrivez déjà 30 idées tous les jours de trucs que vous voulez faire, il y en a toujours une ou deux qui aboutiront. Peut-être pas cette semaine, peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être l'année prochaine.
Voilà. Ah, ça va t'adonner du taf aux auditeurs. Est-ce que tu peux nous conseiller une personne? Et une seule, je sais que c'est dur, ouais. Mais à suivre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi?
Ah, c'est dur. Je vais dire une nana qui s'appelle Alizon, qui est une jeune humoriste, qui débute, qui est très chaude et qui est hilarante. Et vraiment, c'est Alizon, A-L-I-Z-O-N. Et elle commence le stand-up, donc...
Donc on lui donne de la force,
on
va la
suivre. Plein de force, elle est super drôle et surtout les sujets qu'elle aborde, je trouve ça très très drôle. Il y a beaucoup de choses, les chats, les études, la vie seule dans son appart qui fuit de partout. Enfin, elle est super drôle, super super drôle.
Tu m'as donné envie de la suivre. En voilà. Tout cas, bravo.
Je peux te donner une deuxième personne ou pas?
Non, vous faites droit qu'à une. Allez, vas-y.
Et la deuxième, ce serait Jane du compte Yo C'est Jane qui fait des recettes de ouf, que de la food porn de malade, des burgers, des moules. Le chocolat de fou, allez la suivre aussi, elle est géniale.
Écoute, merci Justine, parce que c'était un super moment.
Merci à toi.
Au-delà des réseaux sociaux, il faut que les gens sachent que t'es vraiment, vraiment ultra agréable. Non mais je te jure, ça fait du bien. En fait, on dirait vraiment que tu vis pas à Paris. Toi, on dirait que là, tu arrives de la plage directement dans le studio. Donc c'est quand même très, très, très agréable. Merci pour tout ce que tu m'as raconté. Juste, ça fait du bien d'avoir des jeunes filles aussi intelligentes et éveillées.
Ah, merci, ça fait plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté Followers, le podcast énergie qui décrypte le milieu de l'influence et les réseaux sociaux en donnant la parole à vos créateurs et créatrices de contenu préférés. Il est animé par moi, Pauline Borgia, et c'est un plaisir. Mais ce podcast, c'est un beau travail d'équipe. À la réalisation, Cédric Ledoré, à la rédaction en chef, Maud Ventura, à la production, Lise Lovati et Nina Minotto, une équipe joyeusement dirigée par Sarah Conan. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Diffusez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je veux voir vos posts, vos stories et vos réels. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, par exemple. On adore lire vos retours. Merci d'être là. À très vite. Bisous.